Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Et à 8h37 avec nos invités du jour, Pierre-René Lemas, président de France Active, ancien directeur général de la Caisse des dépôts, ancien secrétaire général de l'Élysée, Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting, et Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. On va parler des déficits publics. Petite bonne nouvelle ce matin. Finalement, on est en dessous des 5% de déficit, 4,7%, et on n'a pas atteint les 3000 milliards d'euros de dette. Vous allez nous donner tous ces chiffres, Charlotte Guerre.
Oui, alors la France a finalement évité les 5% de déficit public en 2022. Il s'est établi, comme vous venez de le dire, à 4,7% du PIB. Tout ça, notamment grâce à de bonnes recettes fiscales. La dette publique, elle a été ramenée à 111,6% du PIB contre 112,9% l'année précédente. Mais surtout, comme vous le disiez, elle est restée en deçà du seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros à 2 950 milliards d'euros. Prudence, toutefois, l'endettement public a toutefois augmenté en valeur absolue de 126,4 milliards d'euros par rapport à 2021. Bercy se félicite de ces résultats et souligne la bonne tenue de la croissance française. Mais Bruno Le Maire reste lui aussi prudent. Il a déclaré « Nous confirmons nos objectifs, 3% de déficit en 2027 et une diminution de la dette publique. Le projet de loi finances pour 2024 devra marquer nos ambitions dans ce domaine. Des ambitions, donc 3% de déficit, mais surtout une promesse du président de la République pour 2027. »
Pierre-René Lemas, est-ce qu'il y a de quoi se réjouir ?
Il y a de quoi moins pleurer. On avait fixé une espèce de barre symbolique à 3 000. Bruno Le Maire, depuis quelques mois, disait « on va dépasser 3 000 », donc on ne dépasse pas 3 000, donc c'est une bonne nouvelle. La réalité, c'est que la croissance de la fin de l'année passée, plus l'inflation, ont clairement dopé les recettes. Ouais. Voilà. Donc on a un résultat qui est moins pire que ce qu'on pouvait imaginer en début d'année.
On a quand même accru la dette en valeur absolue de 126 milliards en un an. Hein. 126 milliards.
Si on regarde à la fois l'augmentation de la dette sur une année, la comparaison entre les chiffres de cette année, les chiffres de l'année passée, puis j'ose pas dire, mais c'est un monde qui a existé quand même, qui est le monde d'avant Covid. C'est-à-dire avant qu'on balance autant de liquidités dans l'économie, pour des raisons sûrement pertinentes, on voit bien qu'on est dans un univers complètement différent. Non, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est raisonnable, et que va dire le gouvernement au mois d'avril dans son plan de stabilité, est-ce que c'est raisonnable d'imaginer d'aller vers les 3% qui sont devenus...
Bruno Le Maire le redit ce matin.
Alors, il le redit ce matin. Moi, je fais partie de ceux qui ont vécu beaucoup de plans nationaux de réduction des déficits publics. Vous voyez, des revues des politiques publiques. Il y en a eu sous Sarkozy, il y en a eu sous Hollande. Le président de la République, ou plutôt le ministre des Finances, nous annonce une nouvelle revue stratégique des dépenses publiques.
Ils promettent de baisser de 75 milliards d'euros la dépense par an.
Oui, enfin moi je suis de ceux minoritaires, j'entends bien, et qui fâchent le reste du monde, j'en suis conscient, qui pensent qu'on ne pourra pas tenir avec une politique qui ne touchera pas dans les années qui viennent à la fiscalité.
Ouais. Jean-François Robin, c'est obligatoire, on est obligé de toucher à la fiscalité. Nous, on dit beaucoup ça quand même sur ce plateau. Nicolas Dose l'a encore dit ce matin.
Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'on a des dépenses publiques qui sont quand même sans commune mesure à ce qu'on faisait avant. Le déficit public, on s'en félicite, il est un peu plus bas que ce qu'on pensait, mais on est autour de 150 milliards d'euros, on était à 70 milliards avant. Donc, on a quand même doublé quand même les dépenses publiques, mais je suis complètement d'accord, pour des bonnes raisons, crise énergétique, crise sanitaire. Et ce qui va falloir, ce qui m'intéresse beaucoup dans la réduction de ce chiffre où on est passé de 5 à 4,7 finalement, qu'est-ce qui explique la réduction du déficit public plus forte qu'attendue? Bah, c'est l'impôt sur les sociétés.
Ouais, 8 milliards. Hein.
Et pourquoi l'impôt des sociétés baisse alors qu'on en a baissé le taux? C'est quand même très intéressant.
Monte. Monte alors qu'on a baissé le taux.
Oui, le rendement de cet impôt a augmenté, pardon. Vous avez quand même un impôt qui est passé de 33 à 25, et le rendement depuis 2018 est passé de 17 milliards à 60. Donc on a quand même cette idée qu'on peut augmenter les recettes fiscales sans forcément augmenter les impôts. Moi, je suis plutôt de l'avis de ceux qui pensent qu'il faudrait augmenter, enfin,
réduire les déficits. On a libéré de la valeur dans les entreprises et
en fait,
de la capacité
à faire du
chiffre d'affaires.
On est quand même dans une fameuse courbe de l'affaire, où à un moment ou à un autre, en augmentant les impôts dans un pays qui est très imposé, vous avez des rendements assez négatifs.
C'est sûr.
Donc, on est quand même dans ce moment-là intéressant de voir qu'on peut augmenter les recettes fiscales sans forcément augmenter les impôts. Moi, je fais partie de ceux aussi qui pensent qu'il faut plutôt réduire la dépense publique qu'augmenter les impôts, parce qu'on voit bien qu'on est sûrement à une limite. Et là, ça marche, en fait, finalement. Hein. Mmh. On réduit la dépense publique alors qu'on n'a pas augmenté les impôts.
Ça marche avec de l'inflation.
Mais ou de la croissance, hein, finalement. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, hein, en zone euro, on fait 3,5% de croissance en 2022, on fait 2,6% de croissance en 2022 en France, donc c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait espérer. Donc c'est aussi une augmentation des recettes fiscales avec la croissance.
TVA notamment. La TVA notamment.
La conso et surtout l'impôt.
Mais je crois qu'on est au bout de ce processus.
Et Pierre Ronelba, qu'est-ce que vous disiez justement, quand vous disiez tout à l'heure, on n'échappera pas à un changement de fiscalité, à quoi vous pensez?
Ah, mais je pense très clairement qu'il faudra augmenter les impôts d'une manière ou d'une autre. Je pense que dans la période qui vient, la politique, enfin, augmenter les impôts. Il faudra sans doute remettre en cause, Pisani Ferry dit ça d'ailleurs, il faudra remettre en cause cette politique de baisse systématique des impôts.
Mais pourquoi vous voulez faire ça? Parce qu'augmenter les impôts, effectivement, comme le dit Jean-François, ça peut conduire à étouffer l'économie. On l'a vu dans les années précédentes.
L'élasticité de la dépense publique a quand même une limite. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les politiques de réduction des dépenses publiques sont des politiques qui trouvent en elles-mêmes leurs propres limitations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas à la fois dire, il faut faire plus pour l'école, il faut faire plus pour la santé, il faut faire plus pour toute une série de priorités, notamment la transition énergétique, c'est-à-dire plus de dépenses publiques d'une manière ou d'une autre, et se dire, on va continuer à baisser la fiscalité.
Mais c'est pas une spirale mortifère que vous décrivez là? C'est pas une spirale mortifère, dire toujours plus de dépenses, toujours plus d'impôts?
Non, mais on peut dépenser mieux. Enfin, moi, je suis d'accord que quelles dépenses publiques on va s'attaquer? On voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de santé, on va avoir besoin d'infrastructures dans le renouvelable, etc. On a besoin d'énormément de dépenses publiques.
Mais Pierre-René dit donc qu'il faut plus d'impôts.
Oui, mais il y a aussi peut-être d'efficacité. Est-ce qu'on a besoin de 1000 ou 1500 personnes pour s'occuper du ticket modérateur à la PHP juste à Paris, etc. Donc il y a sûrement des choses qu'on peut digitaliser.
Mais la rationalisation de l'État, Jean-François Robin, on en parle depuis 25 ans.
Oui, mais c'est là où on a
changé.
Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a plus de réserves d'économie ici que de réserves pour monter les impôts quoi, en France. Hein.
Enfin, j'ai pas dit forcément augmenter les impôts, mais arrêter cette politique systématique de baisse des impôts. Je veux bien que la politique de l'offre, j'y ai participé en bon temps, la politique de l'offre soit une priorité, mais à nouveau, le monde a changé. Mmh. Et puis, vous savez, les dépenses publiques, les gisements d'économie sur les dépenses publiques, c'est toujours les mêmes. Mmh. On va finir par reparler de logement.
Attention, on va glisser sur les retraites.
on va peut-être faire plus sur les retraites, vous voyez. Back to 2017, quoi. Hein, souvenez-vous de la politique gouvernementale en matière de logement et des conséquences sociales que ça a eues.
Alors, il y a peut-être une manière de vous mettre d'accord tous les deux et d'en sortir par le haut. On voit ça avec vous, Nicolas Goldberg, c'est la fameuse taxe carbone. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faut réorienter complètement la fiscalité pour aller dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, augmenter beaucoup les taxes sur les carburants? Mais aucun politique n'a le courage de le faire.
Pour Jean-Marie Daniel, c'est la seule taxe qui doit rester. On enlève toutes les autres et on garde juste la taxe carbone.
Il y a peut-être d'autres taxes qu'il faut regarder. Ça dépend aussi de la politique qu'on veut faire. Si on veut avoir une politique redistributive où on diminue les inégalités, on garde quand même certaines taxes. Mais sur la taxe carbone, il faut regarder. Aujourd'hui, le litre d'essence est à 2,20 € le litre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une taxe carbone supplémentaire pour envoyer un signal
prix? Non, mais attendez,
le signal prix, il est déjà là.
Non, Nicolas, quand on regarde le prix du carburant il y a 10 ans, on était à un prix supérieur à ce qu'il est aujourd'hui en euros constants. Et quand on parle avec Benahouda, Bedaïm, vous pouvez aller revoir la chronique en replay, ce contrat gigantesque entre l'Arabie Saoudite et la Chine pour abreuver, arroser la Chine d'hydrocarbures, idem avec la Russie, on marche sur la tête là quand même.
Sur les hydrocarbures, on marche toujours sur la tête, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément une élasticité de la demande au prix. En réalité, il faut regarder les alternatives. Bah, si vous mettez un signal prix plus rapide que ce que les gens peuvent s'adapter, en fait, vous créez juste de la pauvreté, et ça, c'est très exactement ce qu'on ne veut pas faire. Le véhicule électrique, là, ça y est, on démarre enfin. Les projections de RTE, c'est environ 15 millions de véhicules électriques en 2030. Quand on aura réussi à démarrer sur le véhicule électrique, quand on aura des bornes installées, quand tout le monde pourra se déplacer tranquillement sans avoir à être enfermé dans cette consommation carbone, là, effectivement, on pourra mettre des taxes un peu plus significatives. Mais tant
c'est
que vous n'avez pas.
Tôt.
Là, c'est peut-être un peu tôt, et surtout, on a déjà un signal prix sur les énergies fossiles. Ouais. Il faut rappeler que l'an dernier, on a mis 100 milliards d'euros sur la table sur les boucliers tarifaires. en raison de la crise des énergies fossiles.
Pour éviter
pour éviter ce signal prix qui était beaucoup trop fort et beaucoup trop rapide. C'est pour ça qu'il faut un plan d'investissement et étaler ça dans le temps.
Jean-François, moi je crois que le signal prix ne fonctionne pas encore. Moi je suis un fervent défenseur de la taxe carbone. Je vous donne juste un petit exemple. Si vous prenez la somme des SUV, des véhicules, hein, des SUV vendus dans le monde, c'est le sixième pays le plus polluant, le plus émetteur de CO2 du monde. Vous regardez les ventes
C'est pas vous qui crevez les pneus des SUV et qui les
rayez quand même. Non, j'en suis pas là quand même. Mais vous prenez les ventes de véhicules en janvier-février. En Europe, c'est 51% de SUV. Donc 80% sont des diesels et des essences. Donc on n'est pas du tout dans un monde qui bascule dans le bon sens. Mmh. Et le signal prix, même avec de l'euro à 2,20€ avec une voiture lourde comme un SUV, bah, ça ne vous empêche pas que vous avez plutôt envie d'acheter une SUV qu'une petite Zoé électrique. Quoi.
Mais là, ce n'est peut-être pas la taxe carbone, c'est peut-être une taxe sur le poids des véhicules qu'il faudra mettre en place
oui,
et contre laquelle l'Allemagne a lutté.
Une subvention carbone.
Bah,
c'est-à-dire on est dans un monde à l'envers.
Complètement.
On est en train de donner de l'argent là où on attend une espèce de signal par la taxe carbone ou tout autre dispositif qui permette de montrer que tout ça a un coût sur la durée.
Donc on marche un peu sur la tête. On n'investit pas en fait. On n'a pas assez investi dans les technologies bas carbone, donc on se retrouve à éponger.
Je crois que surtout on a eu très 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 peur de ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes.
Aussi.
Et qu'à ce moment-là, il y a eu une telle explosion sociale que voilà, on n'ose plus. Mais si je peux me permettre, si on ne prend pas en compte dans les politiques publiques désormais les conséquences que ça peut avoir sur l'opinion publique, sur les politiques sociales, sur les réactions du corps social, que ce soit hier en milieu rural ou aujourd'hui avec la manifestation dans Paris, on voit bien qu'on n'y arrivera pas. Donc toutes ces politiques de baisse des dépenses, écoutez, les retraites, c'est ce qu'on appelait autrefois dans le vocabulaire de Bercy un scalp. Ça permet de dire, vous voyez...
Ah,
Je l'ai eu, quoi.
C'est ce que veut faire Macron.
Eh oui, mais alors le problème du scalp, c'est que les gens, finalement, aiment bien avoir des cheveux, quoi.
Ouais. Bon, allez.
Ça nous amène au sujet du nucléaire. Hein. L'Union européenne ne veut pas subventionner les EPR dans son plan d'industrie verte. C'est ce qu'a annoncé la Commission. On était hier avec Louis Gallois, co-président de la Fondation de l'Industrie. Pour lui, la France doit se battre.
C'est une bataille, hein. C'est un combat. Et la France le mène, mais elle le mène pas seule. Il y a 11 pays qui sont assemblés avec la France pour défendre le nucléaire. La Commission manifeste une défiance permanente à l'égard du nucléaire.
Et sur tous les sujets, que ce soit l'hydrogène, le financement du plan anti-IRA européen, sur tous les sujets, la France notamment et l'Allemagne s'opposent sur ce sujet-là. L'Allemagne ne veut pas entendre parler du nucléaire, le Luxembourg non plus, il dit que c'est sale, que c'est cher. Et nous, on considère que ça fait partie d'un élément de souveraineté. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Goldberg ?
Il n'y a pas que la France qui considère ça, ça a été dit. Il y a 11 pays derrière la France et surtout en Union européenne, on a ce traité Euratom, qui est un traité de coopération européen sur... les technologies du nucléaire, dont l'Allemagne est d'ailleurs signataire, hein, parce que l'Allemagne a toujours un petit peu de nucléaire, et ils en avaient à une époque, et la France, sur le nucléaire, n'est pas seule. On a la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, on a même l'Italie qui a rejoint la coalition. Alors, est-ce que ça va se concrétiser avec la construction de réacteurs en Italie ? Je ne suis pas sûr, on verra. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans le plan AERA version européenne, donc le NZIA, donc qui est en fait un plan de réaction contre l'AERA américain, on a quand même le nucléaire qui est considéré comme une technologie zéro carbone. Donc
juste pour les SMR,
alors,
les small reactors.
Alors, est-ce que c'est juste pour les SMR ? C'est pas sûr, c'est un peu flou. Vous
savez, c'est un peu flou, c'est un égo, mais bon.
C'est pour les technologies innovantes, c'est pour ce qui consomme un peu moins d'eau, c'est pour les plus petits réacteurs qui sont effectivement dedans. Ouais. Mais les EPR sont pas de facto exclus, mais là où ils sont exclus, c'est des technologies stratégique en fait. Voilà, on fait ça à l'européenne, il y a les technologies zéro carbone, il y a les technologies stratégiques, et du coup est-ce que ça donnera droit aux mêmes simplifications administratives et aux mêmes dérogations d'aide d'État? Ben ça, a priori, non, et ça a bien été dit par la présidente de la Commission européenne.
C'est quand même un problème.
Donc, c'est quand même un problème, effectivement, mais ça montre que si on veut défendre le nucléaire comme industrie stratégique en Europe, il faut se battre un peu, il faut faire des alliances. Il y a d'autres pays, il n'y a pas que la France et l'Allemagne en Union européenne, il y a d'autres pays qui sont opposés, l'Autriche et le Luxembourg notamment.
À Luxembourg,
il y a
beaucoup
aussi qui sont pour, l'Espagne aussi. Mais il y a d'autres pays qui sont pour, c'est le cas de la Finlande, la Suède. La Finlande va reconstruire des réacteurs nucléaires, va intégrer l'OTAN. Hein. Il y a la Pologne aussi qui a signé pour des réacteurs nucléaires avec la Corée du Sud et la Pologne qui dit moi je veux bien signer avec la France, mais il faut que ce soit financé correctement. Donc il y a un mouvement pro-nucléaire quand même en Europe. Mais voilà, c'est toujours des négociations, c'est toujours le tandem. Quoi.
Ce qui est compliqué, évidemment, c'est que ce label européen va conditionner le coût du financement, en partie, hein, pour le nucléaire. Et donc, c'est stratégique, Jean-François.
Oui, alors moi, je pense qu'il y a vraiment deux sujets, là. Il y a la souveraineté énergétique et il y a la lutte contre le réchauffement climatique. La souveraineté énergétique, on peut entendre que le nucléaire est une des solutions, hein, mais c'est vrai que l'année dernière, on est le pays qui a le plus importé d'électricité d'Europe. Hein, on avait jusqu'à 32 réacteurs sur 56 qui étaient en panne. On en a encore 21 ce matin et on importe ce matin d'électricité.
En maintenance.
En maintenance, oui. En tout cas, qui ne fonctionnent pas. Il y en a 21 donc, qui sont en maintenance ou à l'arrêt et on importe de l'électricité. Donc, notre souveraineté énergétique dans notre mix actuel ne fonctionne pas. Et je rappelle qu'on est à quasiment aux deux tiers du mix énergétique français. C'est qu'on a 70% de notre électricité qui est nucléaire, mais dans notre mix énergétique français, les deux tiers, c'est pas de l'électricité, hein, c'est des trucs carbonés. Donc on a notre souveraineté énergétique pour l'instant, elle est de payer une facture l'année dernière de l'ordre de 100 milliards d'euros pour importer des énergies carbonées du reste du monde, notamment de Russie, notamment des pays pétroliers. Donc ça, c'est l'histoire de la souveraineté énergétique. Hein. On est quand même un pays très isolé là-dedans, puisqu'on est aujourd'hui dans le monde, 90% des nouvelles capacités électriques installées, elles sont renouvelables, elles ne sont pas nucléaires. Hein. Donc monde est en train de devenir renouvelable et pas nous, nucléaire. Donc ce n'est pas vraiment le mouvement, il est quand même un petit peu unique en France, si tu me permets.
Il est beaucoup plus renouvelable, oui,
effectivement. Et là, on est sur un deuxième plan, est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique est la priorité? Si la lutte contre le réchauffement climatique est la priorité, on a parlé tout à l'heure des centrales éoliennes, hein, mais le nucléaire aujourd'hui, on parle de guerre, de combat, Louis Gallois, c'est une arme qui va arriver après la guerre. Hein, il faut réduire nos émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. Il n'y a pas un nouveau réacteur qui sera disponible à ce moment-là. Donc, on a quand même un souci. C'est entre-temps, d'ici 2030, comment on fait? Le nucléaire, ce n'est pas pour cette guerre-là. C'est pour la guerre d'après.
Et ça ne s'arrête pas en 2030, la décarbonation. Hein. La neutralité carbone, c'est 2050. Non. Donc, effectivement, après 2030, on pourra, après 2035 même, on pourra avoir besoin de réacteurs nucléaires.
La question, Nicolas, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ici 2030?
Ah non, mais d'ici 2030, il n'y a pas le choix. C'est les renouvelables, la sobriété, l'efficacité. Voilà. Ça, je suis d'accord.
On n'entend pas assez, je trouve.
On parle du nucléaire, mais de toute façon, il faut faire croître massivement les énergies renouvelables si on veut décarboner.
Les renouvelables, et en deux, effectivement, à plus long terme.
Voilà, à plus long terme, il y aura du nucléaire, il y aura de l'éolien flottant. L'éolien flottant, ça arrive après 2040 aussi, hein, mais on en aura besoin quand même si on veut avoir suffisamment d'énergie renouvelable.
On était avec le patron d'EDF Renouvelable à 7h20. Interview, évidemment, à revoir en replay et en podcast. Et c'est intéressant parce que c'est quand même un beau contrat et qui va fournir 1,5 million d'habitants en électricité.
Dans 8 ans.
Et c'est que le premier, parce que là, l'objectif en France, et moi j'aimerais qu'on l'atteigne quand même, c'est de mettre 40 gigawatts d'éolien offshore, donc ça veut dire d'éoliennes en mer, c'est l'équivalent des deux tiers de notre parc nucléaire. Aujourd'hui, on est à peine à 500 mégawatts, hein, donc 0,5 gigawatts. Donc c'est ça qui va surtout croître dans les prochaines années. 14 EPR en France, ça va être en gros 20 gigawatts, donc ça va être un peu moins, mais c'est bien ce que vous disiez, il y a les renouvelables, et là il faut croître massivement, et il y a le nucléaire qui fournira une base pilotable, et qui sera stratégique pour la souveraineté énergétique, mais également qui contribuera à la neutralité carbone, mais qui contribuera à son échelle.
Ouais, enfin, ceci étant, tout ça est du temps très long. Hein, les décisions sont à prendre maintenant. Et derrière tout ça, il y a aussi une bagarre, et je partage totalement votre analyse, mais derrière tout ça, il y a aussi une bagarre évidente, qui est une logique de concurrence entre la France et l'Allemagne,
On voit bien.
Avec des enjeux industriels.
Merci beaucoup Pierre-René Lemain, Nicolas Goldberg et Jean-François Robin pour ce débat.